Voilà, cette déclaration de principe est en fait. Je dois avouer que ma connaissance de cet ensemble de sources orales, et je travaille depuis un certain nombre d'années aussi sur ce domaine, est bien imparfaite et lacunaire, et même dans le domaine plus particulier qui m'intéresse, l'histoire du travail. Je le déplore, j'essaie de comprendre. La première difficulté tient au fait que cet objet appelé témoignage oral à caractère rétrospectif, historique ou patrimonial, est un objet multiforme. Et je pense qu'il convient de réfléchir à ce que cela représente matériellement. Je le montrerai dans un instant. La deuxième difficulté est due à des carences en matière d'outils permettant de prendre simplement, aisément, connaissance de l'existence d'une source orale. Je songe plus particulièrement aux inventaires et aux bibliographies ou encore à des banques de données. Hier, en fin de journée, Françoise Lempereur s'est exclamée en disant « Il nous manque une banque de données de l'ensemble des sources orales pour pouvoir prendre aisément connaissance de ce qui existe. » En effet, une telle banque de données n'existe pas, en tout cas pas en Belgique. On relève par contre, par-ci, par-là, c'est très inégal, des inventaires de tels producteurs de sources, encore que la plupart de ces inventaires ne sont pas publiés. Le manque d'inventaire est un problème crucial. En tout cas, il est crucial si l'on considère utile et souhaitable à ce que d'autres personnes que celles qui ont produit une source orale puissent l'étudier et l'exploiter. Cependant, on peut se demander si tous les producteurs de sources orales ont conscience et souhaitent que des tiers puissent accéder à leurs sources. La question m'est venue à la suite de la lecture d'un ouvrage récent qui relate les souvenirs d'entre-deux-guerres d'un vieux Molenbeekois, intitulé « Enquête de Molenbeek, Alfred de Vos », paru en 2004. L'auteur, Françoise Van Kol, ne précise pas dans son introduction si des enregistrements, des interviews existent encore, où ils se trouvent éventuellement et s'ils sont consultables. Aujourd'hui, après avoir rencontré l'auteur, je sais que les enregistrements se trouvent en sa possession, mais que vont-ils devenir? Saura-t-on jamais les consulter? Par ailleurs, qui comprendra à la lecture du seul titre « Enquête de Molenbeek » de cet ouvrage que celui-ci est basé sur des témoignages oraux? Il faut ouvrir l'ouvrage pour le savoir. Par conséquent, plus d'un chercheur risque de passer à côté d'une source qui me paraît pourtant particulièrement intéressante. Pour un instant, je me mue en l'avocat du diable pour poser la question, les questions suivantes. Qu'est-ce qui obligerait un producteur de sources orales de les conserver, de les faire connaître, de les rendre accessibles et consultables? Pourquoi faudrait-il faire circuler et diffuser des sources orales au-delà, en tout cas, d'un petit créneau de personnes que l'on peut considérer comme étant concernées directement par tel type de témoignage? Ainsi, les Molenbeekois intéressés par la vie quotidienne pendant les années 1930 liraient des souvenirs d'Alfred de Vos. Les anciens coloniaux ou les enfants intéressés de retrouver ce pan d'histoire liraient une anthologie de témoignages récoltés par l'ESBL Mémoire du Congo. Les militants du MOC liraient les publications du CAROP, enfin, etc., etc. Est-ce que ce n'est pas bien là la réalité? Souvent, en tout cas. Personnellement, je trouve légitime de raisonner et d'agir de la sorte. Mais bien sûr, le chercheur en moi souhaite vivement qu'un maximum de sources orales soient conservées, inventoriées, signalées, accessibles et exploitées. Bien sûr, lorsqu'il s'agit d'institutions publiques ou subsidiées par les budgets publics qui produisent des sources orales, on peut exiger à ce que ces dernières soient accessibles à la recherche. Et en général, les équipes universitaires font des efforts qui vont dans ce sens. Pourtant, ici encore, je voudrais me faire d'abord l'avocat du diable. Est-ce vrai que les chercheurs sont en demande de pouvoir consulter des sources orales produites par d'autres? L'historienne française Florence Deschamps, dans son livre « L'historien, l'archiviste et le magnétophone », que je conseille vivement, a livré une analyse de la situation en France qui peut apporter des éclairages utiles à la compréhension de la situation en Belgique. L'analyse est d'autant plus intéressante, je trouve, qu'elle place la question particulière de l'inventoriage des sources orales dans un contexte plus large. En effet, Florence Deschamps constatait en 2001 le paradoxe suivant. La production croissante de sources orales contraste avec une demande plutôt faible, voire en recul, de consultation des sources existantes. Voilà les explications avancées par l'auteur et auxquelles je souscris largement. Je la cite. Premièrement, on peut souligner la relative confidentialité dans laquelle sont tenues les collections d'archives orales, faute d'inventaire publié, et donc leur méconnaissance par le public comme par les chercheurs. Deuxièmement, malgré un consensus de surface, il nous semble que les préjugés historiens, donc universitaires, ou les réticences méthodologiques à l'égard des témoignages individuels perdurent en profondeur. Troisièmement, l'embarras face aux documents sonores ou audiovisuels auxquels les chercheurs ne sont guère habitués par leur formation est évident. Il faut utiliser un magnétophone et des cassettes, mettre un casque, apprendre à repérer l'information autrement qu'en parcourant en lecture rapide un document écrit. Bref, il faudrait changer les habitudes. Quatrièmement, même pour l'historien le mieux disposé à l'égard de la source orale, le fait de consulter et d'utiliser des témoignages recueillis par d'autres reste rebutant. Il préfère, s'il le peut, constituer ses propres sources selon sa propre méthode et selon son propre questionnement. Cinquièmement, les temps de transcription et de dépouillement découragent le chercheur en histoire contemporaine habitué à feuilleter à son rythme les liasses et pelouriers. Dans le cas des archives orales, il est obligé de se conformer au rythme de la parole du témoin et le travail de dépouillement est en quelque sorte redoublé. Sixièmement, les difficultés d'utilisation de la source, moins rapide et moins docile que les archives écrites, ainsi que l'inexpérience dans l'exploitation et dans la critique des documents parlés, font juger les sources orales pauvres et sans intérêt historique. Elles déçoivent souvent, faute d'une interrogation spécifique. Enfin, la lourdeur juridique des autorisations de consultation ou de citation ne facilite pas l'exploitation extensive et intensive des sources orales. Fin de citation. Ce n'est guère une vision optimiste, allez-vous me dire. Je pense que Florence Deschamps vise juste et qu'elle épingle des problèmes réels. Il faut en avoir conscience, mais il faut aussi agir.